461. L'œuvre est la tienne, Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre dans laquelle nous nous tenons. L'œuvre est la tienne, Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre dans laquelle nous nous tenons. Et parce que c'est la tienne, c'est ton œuvre. Elle ne pourra pas s'effondrer. Loué et remercié soit le Seigneur pour cette occasion que nous avons de nouveau d'être ici pour écouter sa parole. Je ne sais pas si l'un des frères peut-être a encore le cœur rempli. Je ne vois pas en ce moment le frère Coupefeuille, il s'est fait très petit. Mais il est ici. Je vais seulement lire quelques écritures, mais si tu auras une pensée, ou bien l'un des frères de la Belgique, courtement une pensée que vous voulez apporter, alors vous êtes la bienvenue. Entre-temps, j'ai la nouvelle triste à remettre, que le frère Pierzich est reparti à la maison, donc est décédé. Et à chaque fois que nous entendons que quelqu'un décède, alors cela nous va au cœur. Et nous savons que l'heure pour chacun arrivera. Rien sur terre est plus sûr que cette heure dans laquelle nous devrions quitter cette terre. Partir d'ici. Et peut-être qu'il y a des jeunes, ou bien alors qui sont jeunes, oui, ou bien même plus jeunes, donc adolescents, et qui ne sont pas capables encore à cet âge de comprendre ce que ça veut dire quand on prend de l'âge. de penser à cela. On pense avec tout le sérieux quand on prend de l'âge à cela. Et on se pose la question, comment est-ce que ce sera là-bas? Je ne veux pas parler ici de la gloire. Elle aura lieu là-bas, elle sera là-bas, mais comment est-ce que nous nous tiendrons, comment nous serons quand nous apparaîtrons devant le Seigneur? Comment est-ce que nous arriverons là-bas? C'est de ça qu'il s'agit. Et chacun qui a déjà plusieurs années derrière lui sur ce chemin de pèlerin, il s'examinera. Toujours de nouveau, il s'examinera lui-même. Parce que la propre assurance n'a pas de place là, n'est pas à sa place là. Mais d'entrer en soi, vraiment de le faire profondément et de sincèrement, et de se poser la question, est-ce que devant moi, devant les hommes, devant Dieu, je pourrais subsister? C'est la grande question. À cela s'ajoute encore que tous, nous qui avons pris de l'âge, qui vieillissons, nous souhaiterions, n'est-ce pas, revenir à l'âge de 17-18 ans. Sûrement, chacun, sans exception. Car 50 ans ou bien plus de 50 ans, peut-être moins de 50 ans, non, mais tous ceux qui ont 50 ans et qui sont au-dessus de 50 ans, ils vont sûrement avoir parfois pensé, oh, si ce serait bien, si on pouvait encore recommencer et revenir à l'âge de 17 ans, de 18 ans, ce serait bien. Et vous savez que nous avons cette pensée, cela, d'avoir cette pensée, ça a une signification particulière. Nous sommes déterminés, une fois, à revenir dans notre jeunesse et à rester jeune dans toute l'éternité. Et quelque part, il y a ces derniers temps, dans une prédication de Frère Branham, je l'ai lu dans une prédication en anglais et je ne voulais pas en parler alors que j'avais fait mon expérience du 1er janvier 1981, c'était en 81, quand je l'ai raconté, j'ai pas voulu dire que j'avais vu. Bon, j'avais parlé, que j'avais vu tous autour de moi. Ils étaient tous jeunes, à peu près 17 et 18 ans, et ils avaient tous leur propre chevelure. C'était une chose avec les cheveux. Ça, c'était. On pouvait tout de suite le voir. La même couleur de cheveux qu'on a ici, on l'avait là-bas. Et je l'ai lu dans une prédication de Frère Branham il n'y a pas longtemps. Alors qu'il était dans la gloire, il a dit que tous étaient habillés en blanc, mais que chacun avait la couleur de sa chevelure. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas osé le dire, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu là-bas. Et ici, je l'entends, ici, de la bouche de ton serviteur et de ton prophète. C'est comme ça que ce sera. Tous, nous serons jeunes et chacun connaîtra chacun. Chacun connaîtra chacun. C'est pas comme dans un nuage. Nous sommes tels que nous sommes avec le corps à 100% avec le corps. C'est, chacun est perceptible. C'est comme ça que j'ai vu les gens. Et quelle espérance merveilleuse. Pas seulement le souhait de nouveau de revenir à sa jeunesse pour pouvoir recommencer, mais cela nous sera accordé de Dieu d'être jeune, de ne plus recommencer ou être jeune ou cesser de l'être, mais rester jeune et lié avec Dieu pour toujours, éternellement. Avec notre sœur, bien sûr, qui est restée, son mari est décédé, nous ressentons cette douleur et nous savons que Dieu ne fait aucune erreur. Quand est-ce que l'enterrement aura lieu? En ce moment, ce n'est pas à dire parce que la date n'est pas encore connue. Nous espérons que mercredi sera suffisamment à temps pour que je puisse être présent, parce que en mercredi justement je prends le vol pour Bombay et là je commence avec un voyage avec un programme rempli par presque toute l'Inde, oui, jusque à la pointe en bas, au sud et plus haut au nord. Donc, je traverserai tout le pays et je vous demande de prier pour moi, de penser à moi dans vos prières. Vraiment. Je ne sais pas si je dois encore déjà annoncer le prochain voyage en Israël. À chaque fois qu'une année va à sa fin, je pense à Israël et les amis qui voudraient bien y être aussi. Et la proposition a été que nous pourrons du 7 jusqu'au, à peu près dans 2 semaines, jusqu'au 18 peut-être. Donc l'année qui arrive, nous irons en Israël. Nous allons l'annoncer. S'il y a des frères et des sœurs qui sont là, qui voudraient bien. S'il vous plaît. Ah, ce sera en mai. C'est en mai. Donc du 7 au 18 mai 1984. Vous savez, je l'ai écrit et je vais encore l'écrire, pas par opposition, mais par responsabilité devant Dieu et devant les hommes, que l'année 84 viendra et passera comme l'année 83 est venue et passera aussi sans que quelque chose, aucun pronostic, aucune annonce, sans que rien de tout ce que les hommes ont annoncé arrive. Et cela, Dieu va le faire pour une raison bien précise, pour justifier sa parole, que aucun homme connaît le jour et l'heure. Et ces deux frères de la Pologne, qui étaient là en Hollande à la conférence et qui nous ont brièvement, rapidement visités, ils ont repris cette argumentation des autres frères et ont dit oui, mais il est écrit que personne connaît le jour et l'heure. Mais, et ensuite, ils ont continué dans leur argumentation que en ce qui concerne le mois et l'heure, on pourrait éventuellement le savoir. Et cela est une chose complètement folle. Chacun peut reconnaître que c'est de la folie. Il est écrit dans un verset que personne ne connaît le jour et l'heure. Et dans un autre verset, le Seigneur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Actes des Apôtres 1, verset 7. Et déjà, les frères disent, « Oui, mais ça, nous ne l'avons même pas encore lu. Ah, mais c'est aussi écrit dans la Bible. » Vous voyez? Donc, on peut réellement prendre un verset, par exemple, Matthieu 24, verset 36, et puis chevaucher là-dessus jusqu'à qu'on soit blessé. Et ensuite, on entend peut-être aussi, au lieu de prendre toute la Bible sur un sujet, même si l'adversaire vint et disait, il est écrit, alors le Seigneur vint et lui a dit, oui, mais il est aussi écrit, il est encore écrit. Et avec la parole de Dieu, il a répondu à toutes les questions. Et je pense que le Seigneur renferme les sages dans leur intelligence et les laisse comme des insensés. Et ceux qui aujourd'hui sont présentés comme des insensés sont peut-être ceux qui, quand le temps viendra, apparaîtront comme des sages. Heureux les hommes qui peuvent supporter d'être désignés comme insensés par tous. Heureux ceux qui peuvent le supporter. Et à la fin, avec le Seigneur, aller dans la gloire. Qu'est-ce que Paul disait? Nous sommes devenus les ordures de la terre parmi les hommes, et comme de la boue rejetée, mais malgré tout, envoyé de Dieu. Ce matin, nous l'avons mentionné courtement, l'adversaire, l'ennemi, n'a pas attaqué tout le monde. Il a seulement attaqué les porteurs de la parole. Oui, c'est eux qu'il a attaqué. C'est eux. C'est vers eux qu'il a tiré. C'est sur eux qu'il a tiré en tout temps. Et il pensait les avoir tués. Et vous savez ce qui est merveilleux? Frère Branham le dit dans une prédication. Satan pensait à chaque fois qu'il avait tué un prophète, il pensait que par cela, il avait achevé, anéanti et faire cesser le plan de Dieu. Et quand Christ a été crucifié, alors il était certainement de cette opinion que maintenant Dieu a perdu, Dieu a échoué et maintenant il est ici dans mon domaine et maintenant tout est terminé. Et alors il a dit une fois pour toutes que Christ, notre Seigneur, a pris à l'adversaire, à l'ennemi, les clés et il pouvait le dire plus tard. Et il pouvait dire plus tard, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Je vis et vous vivrez aussi. Les prophètes ont été mis à mort, mais la parole qu'ils ont portée est restée vivante jusqu'à ces jours et restera vivante jusqu'à dans toute éternité. Les choses restent ainsi. Qui n'a pas versé son sang? Qui n'a pas laissé sa vie de tous ces hommes de Dieu jusqu'à le Seigneur lui-même qui mourut? Mais je ne sais pas exactement si quelqu'un des frères voudrait venir. Seulement une pensée de la parole de Dieu qui nous sera tous une bénédiction. Si c'est ainsi, venez s'il vous plaît maintenant devant. Père Céleste, bénis les paroles qu'on vient d'écouter dans nos cœurs. Seigneur Dieu fidèle, qui sommes-nous? Nous te demandons, fais-nous grâce, accorde-nous la crainte de Dieu et le respect devant ta parole. Examine nos cœurs et reconnais nos pensées. Seigneur notre Dieu, bénis chaque verset biblique qui sera encore lu. Et accorde ta grâce pour que nous puissions de tout notre cœur suivre et que nous puissions dire amen à ta parole, l'accepter, nous soumettre à ta parole et nous savoir intégrer, car pour toi c'est faible, c'est facile de secourir les faibles et les forts, car les deux dépendent de ton secours. Oh Seigneur, nous t'apportons l'adoration pour ta sainte et précieuse parole. Amen. Amen. J'avais lu ces deux versets, pas seulement le verset 9, mais aussi le verset 8. Déjà depuis longtemps, je les avais soulignés. Vous pouvez le voir dans 2 Chroniques, chapitre 16. Il y avait un verset que j'avais souligné aussi au chapitre 15. Je voudrais lire les deux versets. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, le frère Chronique avait lu le verset 9.
Waren nicht die Kuschiten und die Libyer.
Le verset 8, 2 Chroniques 16, verset 8. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui, sur l'Éternel, parce que tu as fait confiance à l'Éternel, tu as mis ta confiance à l'Éternel, il les a livrés entre tes mains. Car, verset 9, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à eux. Tout entier à lui, pardon, à lui, jusqu'ici. Tout entier à lui. Jusqu'ici, cette parole sainte et précieuse de Dieu. Une autre parole du prophète Ésaïe. Chapitre 60, le premier verset. Ici, cette phrase connue est connue. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. En allemand, c'est au passé. Ésaïe 60, verset 1. Maintenant, au verset 13 d'Ésaïe 60. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès l'orme et le buis tous ensemble. Maintenant arrive. Pour orner le lieu de mon sanctuaire. Car je glorifierai la place où reposent mes pieds. Est-ce que cela n'est pas une parole merveilleuse? Car je glorifierai la place où reposent mes pieds. Et qu'est-ce que c'est que la place, sur terre où ses pieds se reposent? Si nous lisons les sept écrits aux églises, dans Apocalypse, nous avons compris que le Seigneur, après sa résurrection, après sa montée au ciel, n'a pas fait un pèlerinage par Jéricho, ou bien n'était pas à voir sur le Sinaï, mais il marchait parmi les sept sandaliers d'or. La place où ses pieds marchent, c'est son église qui est appelée de son nom. La place où reposent ses pieds. Et ici, il est écrit, je glorifierai la place où repose, le lieu où reposent mes pieds. Et cela veut dire, pas seulement passer par, marcher par là, mais rester là, habiter là, demeurer là, là où le Seigneur peut entrer en repos, là où il peut demeurer, là où il peut bien se sentir, habiter. Et nous voulons revenir au premier amour, vous savez, dans la première, dans le premier écrit, il est dit à l'église aux Éphésiens, j'ai contre toi que tu, ce que j'ai à te reprocher, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et si tout doit être rétabli et ramené au commencement, donc il ne s'agit pas seulement de la parole qui était au commencement, il ne s'agit pas seulement qu'elle soit rétablie et restaurée, mais il s'agit aussi qu'une église existe, qu'il soit un seul cœur, une seule âme, une église dans laquelle l'amour de Dieu a été répandu par le Saint-Esprit, une église parmi laquelle ses pieds peuvent se reposer, un lieu sur terre dans lequel Dieu le Seigneur peut bien se sentir. D'autres paroles que je voudrais lire en relation avec ce que nous avons observé hier. Nous voulons lire cette parole merveilleuse de 2 Rois chapitre 2. Auparavant, je voudrais lire, dans 1 Rois 19, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la douzaine. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère. » En allemand, prendre congé de mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, « Va et reviens. » Car pense à ce que je t'ai fait. Car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Ici, Nous avons lu et aussi déjà hier soir l'avons entendu dans la prédication de Frère Branham que un appel divin n'est plus à retenir et que on doit se décider instantanément et on n'a pas de temps de réflexion. A pris une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice, avec l'attelage des bœufs, et avec l'attelage des bœufs, il a fait le feu et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie. Il a suivi Élie, mais lui-même, Élisée, il avait reçu un appel divin et ni la mère ni le père pouvaient le retenir. Il s'est mis en chemin car dans son cœur, il y avait quelque chose qui s'était passé. Il n'est pas écrit que Élie lui aurait dit quoi que ce soit. En passant, il a simplement mis son manteau sur lui. Il a retiré son manteau et il a jeté sur Élie. Et Élie a continué à marcher. Il ne lui a rien dit. Sans lui avoir dit un seul mot. Mais bien aimé, quand Dieu est dans un homme qui est en voyage et qui pour exécuter le mandat de Dieu, alors il n'a pas besoin de faire beaucoup de paroles. Celui sur qui l'appel tombe et celui qui est déterminé à être introduit dans le programme de Dieu, avec lui, cela s'est passé à l'instant même. Il n'a pas besoin de réflexion. Pendant des années, il n'a pas besoin de personnes avec qui des personnes qui consultent. Non, il se met en chemin avec. Et il brûlera derrière lui tout ce qui pourrait le retenir. Et Élisée l'a fait. Il ne pouvait plus retourner au bœuf et à la paire de bœufs, car il les avait déjà sacrifiés, immolés. Et même l'étalage était brûlé. Il n'y avait plus pour lui de possibilité de revenir. Pour lui, il n'y avait qu'une seule chose, c'est d'aller de l'avant, de partir pour toujours. Il l'avait entendu hier soir que cela est comparable avec Christ et l'Église. Pour nous qui avons été saisis par Dieu, il n'y a plus de revenir, il n'y a plus de retour, mais il n'y a que aller de l'avant. Nous ne regardons plus en arrière jusqu'à ce que nous ayons traversé le Jourdain, jusqu'à ce que nous ayons atteint notre but. Et cela ne vient pas de nous, ou bien de notre force, mais par la grâce de Dieu. Il y a une deuxième chose que nous avons constatée, c'est que Élisée n'a pas une seule fois écouté Élie, qui voulait le mettre à l'épreuve et devait le mettre à l'épreuve et lui disait, je vais à Gilgal, toi reste ici. Et qu'est-ce que cet homme a dit? Aussi vrai que Dieu le Seigneur vit et aussi vrai que ton âme vit, je ne reste pas ici, je continue à aller avec toi. Je continue à marcher. Je ne m'arrête pas. Ça, c'est quelque chose de très merveilleux. Si on voulait retenir un homme que le Seigneur a vraiment appelé, on lui dirait, reste ici. Il ne restera pas en chemin et il ne va pas se laisser retenir non plus. Il va continuer à marcher aussi longtemps que Dieu marche. Et ça, c'est une très grande leçon. Frère Branham l'avait comparé avec le fait que les hommes restent à leur confession de foi lors de la conversion à Christ. Ils restent toujours à une étape, ils arrivent à une étape et ils restent là et se reposent et restent là et pensent que tout est bien. Mais Élisée ne s'est pas arrêté à Gilgal. Il ne s'est pas arrêté à Jéricho. Il ne s'est pas arrêté à Bethel. Et il s'est arrêté nulle part. Il est simplement resté au talon d'Élie parce que Élie avait la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Élisée veut faire à Gilgal? Si l'homme de Dieu qui a la parole de Dieu, qui porte la parole de Dieu, quitte Gilgal, alors il serait resté là à Gilgal, sur un pilier solitaire, sans avoir la parole de Dieu avec lui. Et ça l'a dérangé. Il ne pouvait pas rester. Sûrement que il connaissait bien toutes ces villes, Gilgal, Bethel, Jéricho. Pour lui, il ne s'agissait pas de visiter Gilgal comme un touriste, mais il s'agissait là où tu vas, là moi je vais aussi. Et c'est ainsi que Dieu le Seigneur vit, aussi vrai qu'il vit, et que toi-même tu es vivant, je ne te laisse pas. Je reste avec toi. Ça, c'est ma décision et c'est notre décision. C'est devenu notre décision. Personne peut nous retenir. Nous sommes appelés par Dieu. Nous avons été appelés par Dieu. Et c'est peut-être raison que nous avons été déterminés à passer par toutes ces étapes sans nous arrêter jusqu'à que nous ayons atteint le but promis. Tous les autres qui n'ont pas été appelés étaient déjà à Gilgal. Ils étaient déjà à Bethel. Hein? Tous les l'école des prophètes, n'est-ce pas, étaient tous là-bas. Ils étaient satisfaits. Hein? Et pour eux, il ne s'agissait même pas d'en recevoir un de plus. Mais ce un de plus-là n'était pas déterminé à rester dans leur école de prophètes. Il avait été déterminé à continuer à marcher. Comme c'est écrit dans Philippe, ayant le but à atteindre devant lui. Et cela me réjouit, cela nous réjouit tous. Car l'appel divin, notre vie est venue. Alors c'est pour cette raison que nous allons nous arrêter à aucune étape. Nous n'allons pas nous satisfaire d'avoir expérimenté quelque chose. Mais nous allons continuer avec notre Dieu jusqu'à la fin. Jusqu'à que nos yeux aient vu la gloire de Dieu lors du retour de Jésus-Christ, quand il reviendra pour prendre l'épouse dans la gloire. Élie a été cherché avec les chariots de feu et les chevaux de feu, et nous aussi nous serons enlevés. Et notre Seigneur revient tel qu'il est monté au ciel pour prendre les siens auprès de lui dans la gloire. Ce qui est important, c'est que nous ne soyons pas restés à une étape et que nous n'ayons pas commencé à marcher dans nos propres voies, mais que nous soyons restés sur la voie de Dieu, ayant le but à nos yeux et suivre l'enseignement de celui qui avait la parole de Dieu. Les prophètes ne pouvaient pas influencer Élisée, ne pouvaient rien produire comme effet en lui. Ils ne pouvaient pas dire, ah tu sais que le Seigneur va enlever ton maître de devant tes yeux et va l'enlever. Il dit, oui, ça moi je le sais, taisez-vous, soyez tranquille, ça moi je le sais, laissez-moi en paix, ne me retenez pas ici, je ne suis pas déterminé à écouter ce que vous avez à me dire. Moi, je suis déterminé à recevoir la parole du Seigneur et à recevoir une double portion pour continuer à exécuter ce ministère par la grâce de notre Dieu. Donc, pas d'escale en chemin, même là où il disait, regarde, nous avons ici une révélation puissante. Est-ce que tu sais que ce Élie-là, qui te précède là, tu sais, il sera enlevé. Ça, cela nous a été révélé. Les gens n'étaient pas complètement en dehors de ces choses. Mais ils étaient malgré tout assez en dehors de ces choses pour retenir celui qui marchait aux traces d'Élie, pour faire en sorte qu'il n'atteigne pas le but. Et d'abord, il parlait de la même révélation que Élisée déjà avait reçue. Vous voyez la séduction? C'est de ça qu'il s'agit, pour le retenir. S'ils avaient parlé du communisme, s'ils avaient parlé d'autre chose, ils n'auraient même pas écouté une phrase. Et s'ils avaient parlé non plus aussi de dénomination, non plus. Mais vous voyez, ils avaient le même langage qu'ils ont commencé à parler son langage. Ils parlaient et pour le séduire et le retenir, pour l'attirer à eux. Mais ça, je peux le dire ici, l'homme n'a même pas parlé son langage, sa langue. Mais Élisée parlait le langage de Dieu, car à lui la parole de Dieu était venue. C'est peut-être raison qu'il a pu faire la différence. Est-ce que ces gens-là parlent à lui de l'enlèvement, du message, de toutes ces choses-là? Même s'il voulait lui parler du message et de toutes ces choses, cela est rentré dans une oreille et sorti dans l'autre. Mais lui, il a continué à marcher. Remercions notre Dieu. Hier, nous l'avons entendu que cela est une image de Christ et l'Église. La vraie Église de Jésus-Christ ne va pas se laisser retenir de suivre le Seigneur. Elle va continuer à le suivre jusqu'à qu'elle ait atteint le but. Elle va pas dévier. Elle va rester sur le chemin jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que le Seigneur revienne pour prendre les siens auprès de lui. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour toutes ces leçons, des leçons qui sont actuelles. Est-ce que nous comprenons tout cela? Avons-nous tous saisi cela? De quoi il s'agit pour Dieu dans cette leçon ici? Nous devons dire amen. Merci, sœur. Merci. C'était le temps d'entendre un amen. Beaucoup devraient remercier le Seigneur et dire un amen à haute voix. Qu'il y ait des prophètes, des prophètes de Jéricho, de l'école des prophètes, ou bien qu'ils soient à Bethel ou bien dans une autre ville. Et vous savez que sera toujours mieux. Jéricho, c'est la ville des voleurs. Mais Bethel, c'est déjà la ville de Dieu, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes à Bethel, hein, la ville de Dieu, hein, restez ici, sentez-vous bien et parlez du message. Et cet homme dit, non, aussi vrai que Dieu vit et que toi tu vis, que ce soit une ville de Dieu ou pas ville de Dieu, que ce soit une école de prophètes ou pas, moi je continue à marcher, à suivre le Seigneur pour recevoir la double portion. Tant que tu vis et tant que Dieu vit, je ne t'abandonne pas. Je continue à te marcher, à te suivre. Ça, c'est la grande leçon que nous devons apprendre ici de toute cette prédication de hier soir. Par la grâce de Dieu. Ça n'a pas d'importance que ce soit une troupe enthousiasmée par le prophète ou bien un groupe là-bas. Tous ces groupes-là restent à droite et à gauche et restent, mais tous ceux qui sont appelés et élus et déterminés à atteindre le but, ils continuent à marcher leur chemin avec Dieu jusqu'à qu'ils verront sa gloire. Et à cela, tu dois appartenir, toi et moi. Notre Seigneur est capable, de la même manière, de secourir les faibles et les forts, car les deux sont dépendants de son secours. C'est peut-être quelqu'un que nous venons à lui. Et aujourd'hui, nous voulons lui dire merci comme jamais auparavant et louer son Saint-Nom, car, n'est-ce pas, par l'Esprit, nous avons de toutes ces prédications reçu la révélation par l'Esprit que Frère Branham, mandaté par Dieu, a tenu. Reconnaissez. Et nous avons eu la grâce de reconnaître et de percevoir. Avez-vous tous reçu cette leçon par la prédication qui a été traduite hier? Avez-vous compris? Alors dites Amen à haute voix. Amen. Venons tous devant maintenant pour, ensemble, de tout notre cœur, remercier le Seigneur. car il est digne. Son nom est saint. Sa parole est sainte. Son appel, son message, quoi qu'il ait fait et dit, tout ce qui vient de Dieu est saint. Et nous l'acceptons et nous sommes sanctifiés dans la vérité de Dieu. Et son nom est glorifié parmi nous par cela et sanctifié parmi nous de, parce que nous croyons sa parole et nous lui faisons confiance et nous venons à lui avec un cœur reconnaissant. Nous voulons maintenant le faire. Ensemble, nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. Loué soit Dieu. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour cette heure de grâce et pour ce temps de grâce. Seigneur, tu as parlé clairement avec nous. Et ce qui était se répète parmi nous dans nos jours. Seigneur, tes élus ont été rachetés à un prix précieux. C'est avec eux que tu as parlé. Tu leur as révélé ta parole. Tu leur as confié ta parole. Et ils restent, ils persévèrent dans ces choses que tu leur as accordées. Ils ne dévient pas. Je te remercie. Ils écoutent ta parole. Ils croient ta parole. Ils écoutent ta voix que tu as fait retentir. Nous te louons. Ils n'ont pas besoin d'écouter une autre voix. Mais ils te suivent. Ils écoutent ta voix. Ils te suivent. Nous voulons écouter ta voix. Alléluia. Adoré sois-tu. Loué sois-tu. Nous te remercions pour l'heure qui est arrivée. L'adoration te soit apportée à ton nom. Seigneur, que ton nom soit loué. Tu es proche. Tu es présent. Tu as parlé avec Frère Branham. Et c'est toi qui as parlé. Et il a transmis à ton peuple ce que tu lui as dit. Loué soit ton saint nom. Et c'est ce que nous voulons conserver et suivre. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu pour nous tous et nous mène au but. Mais bien aimé, encore quelques paroles à ce que nous avons particulièrement hier soir écouté de 2 Chroniques chapitre 2 et que nous avons reçu dans notre cœur. L'Esprit de Dieu nous avertit sûrement à ouvrir nos yeux, à avoir la compréhension spirituelle dans 2 Rois, chapitre 2, pour rapporter ça à notre temps et comprendre, nous, ce que nous avons à faire. Si nous avons entendu l'appel divin s'adresser à nous et si nous voulons atteindre le but, nous devons faire comme Élisée. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'Élie ou bien d'Élisée. Aujourd'hui, comme l'avons entendu dans 2 Rois, chapitre 2, il s'agit de Christ et de l'Église. Ça, nous l'avons très clairement entendu. Et cela nous a touché le cœur. De ce pèlerinage autrefois, on aurait pu dire, à Jéricho, de grandes choses se sont passées. Ici, il y avait les espions. Là, le Seigneur avait accompli une promesse. Dans cette ville, il a, n'est-ce pas, conservé, gardé la maison de la femme qu'avaient gardé les espions. Les murailles de Jéricho sont tombées. Ici, nous avons en mémoire ce que Dieu a fait. Jéricho est une référence. Mais pour Élisée, Dieu n'était pas le « j'étais », mais était le « je suis » qui n'est pas celui qui reste quelque part, mais qui continue à marcher. de Bethel, on aurait pu aussi dire, mais auparavant, ça s'était appelé Luz. C'est là que Jacob a vu l'échelle jusqu'au ciel et il a vu les anges monter et descendre. Et là, il a eu ses expériences. Les disciples ont eu facile de dire, reste ici, car, n'est-ce pas, ici, Dieu s'est révélé à notre père Jacob. Ici, il l'a combattu avec l'ange de l'Éternel. Ici, le soleil s'est levé pour lui. Mais Élisée voulait que le soleil se lève pour lui. Il n'était pas satisfait que le soleil se soit levé pour Jacob. Il voulait que le soleil se lève aussi pour lui. Et que Jacob ait combattu avec Dieu et qu'il ait trouvé grâce. Maintenant, c'était son temps pour Élisée. C'était à son tour aujourd'hui d'expérimenter le même Dieu. Et au Jourdain aussi, on aurait pu aussi dire, au Jourdain au verset 6, imagine-toi, deux rois, deux. Dieu a fait quelque chose de puissant au Jourdain. Ici, le Jourdain s'est fendu. Ici, les 10 tribus et demi, ou bien 9 et demi, ont traversé et les 2 et demi sont restés de l'autre côté. Ça, c'est l'endroit ici. Reste ici au Jourdain. Non, pas d'escale, pas de s'arrêter en chemin si on veut atteindre le but. Et cela m'a touché le cœur. Et avec cela, on en veut à personne. C'est seulement une constatation triste. Les prophètes, des disciples de prophètes ici, des disciples de prophètes ici, révélation là. Ils parlent tous du message. Et certaines révélations même qui ici et là sont apportées sont à peu près en accord. Mais le reste n'est pas vrai. C'est peut-être raison qu'il s'agit de continuer toujours à marcher jusqu'à le point qui avait satisfait cet homme. Tout le reste n'était pas pour lui satisfaisant. C'était des villes qui avaient une référence à d'autres, dans d'autres temps, dans d'autres circonstances, pour une autre relation. Mais maintenant, c'était son heure. Maintenant, c'est à lui qu'il était demandé de marcher dans la foi. Et il ne s'est pas laissé retenir. Pourquoi pas? Parce que Élisée avait une promesse qu'il avait reçue. Et les autres n'avaient pas de promesse. Ils pouvaient rester là, à Bethel, à Jéricho, au Jourdain. Ils ne savaient même pas où est-ce qu'ils devaient aller. Ils restaient là. Lui, il avait la promesse. Quand tu verras. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Alors, pour le voir monter, comment il pouvait rester ici et là? C'était impossible. Ayant cette promesse, il devait, poussé par l'Esprit de Dieu et pénétré de la vérité de Dieu dans son cœur, il devait continuer à suivre. Il devait suivre Élie, il devait rester avec lui. Et c'était cette force de la promesse qui était dans son cœur. L'Église qui, dans ces derniers jours, a été appelé à sortir et va encore être appelé à sortir. On ne peut pas rester là avec les fils des prophètes ici et là et des disciples de prophètes ici, des disciples de prophètes ici et des fils de prophètes ici. Tout ça est bien, mais il leur a dit, restez tranquille, moi je continue à marcher, je ne reste pas avec vous. La même chose que cet homme a fait autrefois, Élisée, chacun qui appartient au corps de Jésus-Christ doit faire la même chose. Dis à tous ces hommes qui parlent du message, restez tranquille, nous continuons à marcher. Nous continuons à suivre. Ce n'est pas seulement de parler du message. C'est ce que Élisée a fait. Il a suivi. Et nous aussi, nous devons suivre aujourd'hui le message. C'est ça qui va nous amener au but. Pas de rester quelque part. Imaginez-vous s'il était resté à Bethel, à Jéricho ou bien au Jourdain. Comment est-ce qu'il aurait pu, pour écouter tout ce que ses fils, ses prophètes avaient à dire? Il aurait pu rester pendant des heures et des jours et écouter ces gens. Et pendant ce temps, tout se serait passé. Et il serait resté là et il n'aurait pas reçu. Il serait encore en train d'écouter jusqu'à aujourd'hui. Non, il comprenait de quoi il s'agissait. Car la puissance de Dieu était venue sur lui avec l'appel divin. Quand il a reçu le manteau, il avait déjà reçu la puissance de Dieu. Et c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester quelque part. Nous avons déjà expérimenté le Seigneur, mais nous devons aller de l'avant jusqu'à que nous puissions recevoir et ce dont nous avons besoin pour voir sa gloire. Tel qu'il a promis, aussi vrai qu'il a promis, celui qui vaincra. C'est ainsi que c'est écrit dans le dernier écrit. Tel que j'ai vaincu, dans Apocalypse 3, verset 14, il s'assiera, au verset 16, il s'assiera avec moi sur mon trône tel que j'ai vaincu. Et je me suis assis sur le trône de mon Père. Alors, si tu me vois pendant que je serai enlevé, celui qui veut être enlevé, il ne peut pas rester ici quelque part, prêter les oreilles à tous ces gens-là qui parlent, soit des gens du message, et tomber dans une mauvaise influence. Celui qui a écouté la parole de la promesse, il la porte dans son cœur et il suit le Seigneur. Il ne mélange ce qu'il a reçu de avec rien du tout et avec personne. Il attend jusqu'à qu'il voit cela s'accomplir. Et pour le voir cela s'accomplir, il faut être dans la position pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur a promis. Et cela sera la même chose avec toute l'église appelée à sortir. Pouvez-vous le croire? Moi, je le crois de tout mon cœur. Les élus ne resteront pas arrêtés quelque part en chemin. Ils vont continuer à marcher jusqu'à qu'ils atteignent le but. Ils ne vont pas dévier. Et cela me réjouit et me rend heureux et reconnaissant. Que notre Seigneur soit remercié pour cela. Alléluia.